16 morts et 40 blessés, c'est le bilan toujours provisoire de la tuerie de Bondi Beach à Sydney hier, un drame qui provoque des réactions dans le monde entier. C'est également le cas en Calédonie, page spéciale dès l'ouverture de ce journal. L'actualité politique est selon le journal Le Monde, le gouvernement abandonne le projet de consultation anticipée, nouveau développement dans le dossier calédonien. L'actualité politique, ce sera aussi comme tous les lundis, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Incivilité, insécurité, un collectif d'habitants de Poindimi a manifesté ce matin devant la mairie et la subdivision. Ils réclament des mesures pour améliorer la situation. Et puis les suites des émeutes de mai 2024, 80% de la charge sinistre a été réglée par les assurances et le gouvernement central travaille toujours à la mise en place d'un fonds émeute, nous a dit le président de COSODA qui était ce matin notre invité à 7h30. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Et nous parlerons notamment handball avec la troisième place de l'équipe de France féminine au Mondial.
Les Bleus qui décrochent le bronze et la Calédonienne Suzanne Wajoka qui poursuit son rêve en or pour son premier Mondial sous le maillot de l'équipe de France senior. Notre représentante termine meilleure buteuse des tricolores avec 35 réalisations. Elle nous a fait part de sa réaction, vous entendrez sa grande fierté à l'issue de ce parcours au plus haut niveau mondial du handball.
Et puis en Nouvelle-Calédonie, c'est une période de finale pour le basket calédonien.
Oui, le sacre chez les messieurs de l'AS Dimbéa Basket, c'était ce samedi pour la 8e année consécutive, même si ce sacre 2025 marque la fin de l'ère des Spartiates avec un passage de flambeau au sein du club. Chez les dames, rien n'est encore fait. Deuxième round ce soir entre Rivière Salée et les Mondoriennes. Les joueuses du Mondor gardent l'avantage d'une première victoire 75 à 49.
Et puis un invité dans le magazine des sports, nous recevrons Cédric Do.
Oui, champion de boxe thaï. Le 23 novembre dernier, il avait décroché une nouvelle victoire expéditive et de prestige contre le métropolitain Carlo Berrichon, ex numéro 1 français, ancien champion d'Europe et intercontinental en K1. Notre représentant se prépare déjà à un nouveau combat en début d'année 2026. Cédric Do qui sera dans nos studios.
On se retrouve donc pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. Le terrible attentat de Sydney est évidemment à la une ce midi encore. Deux hommes, un père et son fils, ont ouvert le feu à Bondi Beach hier soir, peu avant 19h, avec des armes de chasse. Et à une heure où de nombreuses personnes étaient dans les rues, notamment des membres de la communauté juive. C'était en effet le premier soir de la fête juive d'Hanouka. On fait tout de suite le point avec Jean-Pierre Zajac.
Le bilan toujours provisoire de cette tuerie s'est alourdi en cours de nuit, vu qu'il fait maintenant état de 15 morts, dont un rabbin, un ressortissant français, un survivant de l'Holocauste et une fillette de 10 ans, et d'au moins 40 blessés hospitalisés, dont deux policiers. Ceux-ci ont été grièvement atteints lors de la neutralisation des deux auteurs de cet acte de terrorisme, à savoir un homme de 50 ans, détenteur de 6 ports d'armes, et de son fils âgé de 24 ans. Le premier a été tué, tandis que le second, gravement blessé, est sous surveillance policière à l'hôpital. Plusieurs engins explosifs improvisés ont été retrouvés à bord de leur véhicule. C'est un acte d'antisémitisme odieux, a regretté ce matin le Premier ministre australien Anthony Albanese. Notre communauté est brisée. Et la vie ne redeviendra jamais normale, a quant à lui constaté le coprésident du conseil exécutif de la communauté juive d'Australie, Alex Rifkin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et cet attentat et les nombreux coups de feu ont évidemment créé la panique. De nombreuses personnes ont tenté de se mettre à l'abri lorsque les coups de feu ont retenti. Comme cette Australienne, écoutez ce témoignage recueilli par nos confrères d'Europe 1.
Il y avait de la musique, un DJ, et du coup, en fait, on a commencé à entendre des coups de feu. J'ai pas tout de suite compris que c'était des coups de feu, je pensais que c'était des feux d'artifice. Et en fait, on a aperçu au loin, en fait, un homme qui se tenait debout avec un fusil et en fait qui tirait dans notre direction. On s'est tous enfuis en courant dans l'autre direction. Et c'est là que j'ai trouvé deux filles qui me faisaient signe et je me suis cachée avec elles dans un parking. Et on entendait encore les coups de feu.
Et peu de temps après l'attaque terroriste, comme nous le disait Jean-Pierre Zajac, le Premier ministre australien Anthony Albanese a pris la parole.
Un acte terroriste a frappé le cœur de notre nation. Une attaque contre des Australiens juifs est une attaque contre chaque Australien. Et ce soir, chaque Australien sera comme moi, dévasté par cette attaque contre notre mode de vie. Il n'y a pas de place pour cette haine, cette violence et ce terrorisme dans notre pays. Soyons clairs, nous les éradiquerons.
Cette attaque terroriste antisémite a été condamnée sur toute la planète, de Londres à Washington, en passant par Berlin ou encore Paris, bien sûr. Réaction également en Israël pour soutenir les familles des victimes, mais aussi pour pointer l'Australie dans sa lutte contre l'antisémitisme par la voix du Premier ministre lui-même. Frédéric Simon pour Europe 1.
Benjamin Netanyahu, particulièrement sévère, le premier ministre israélien, a rappelé qu'en août dernier, alors que Canberra avait annoncé son intention de reconnaître l'État palestinien, eh bien, elle avait adressé une lettre à son homologue australien, l'accusant de jeter de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Lorsque les dirigeants restent silencieux, a ajouté Netanyahu, l'antisémitisme se répand comme un cancer. Yitzhak Herzog, le président israélien, s'est exprimé d'une manière plus mesurée, tout en appelant l'Australie à lutter contre la gigantesque vague d'antisémitisme qui gangrène sa société. C'est le ministère des Relations avec la Diaspora qui a réagi de la manière la plus cinglante, n'hésitant pas à accuser le gouvernement australien d'avoir le sang des victimes sur les mains. Alors sans aller jusque-là, la plupart des responsables en Israël reprochent aux autorités australiennes de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux les menaces pesant sur la communauté juive, menaces liées à l'amplification des agressions antisémites et liées également aux réseaux terroristes étrangers qui se sont constitués en Australie. Le Mossad en avait averti le contre-espionnage australien, qui était parvenu à démanteler une bonne partie de ces réseaux, mais l'ampleur et la nature exacte du danger couru par les juifs australiens n'ont pas été évaluées à leur juste mesure. Les renseignements israéliens sont d'ailleurs impliqués dans l'enquête. Rien à l'heure qu'il est ne permet d'affirmer si l'Iran, le Hezbollah ou un groupe djihadiste est à l'origine de l'attentat.
À Paris, une manifestation a rassemblé une centaine de personnes devant l'ambassade d'Australie. Manifestation à l'initiative de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France.
Envie de montrer qu'on résiste. Je suis de confession juive et je ne vais pas rester chez moi assise à rien faire. Qu'est-ce que je peux faire à part être là? Pas grand-chose, donc je vais déjà faire ça.
Encore une fois, à l'occasion d'une fête juive, les juifs sont attaqués. Et en fait, ce qui se passe en Australie résonne beaucoup ici parce que le facteur commun de cette montée de l'antisémitisme est la libération de la parole antisémite.
Tristesse et colère mélangées. La réaction n'est pas nouvelle, elle est tellement fréquente depuis 2023. On craint pour nous en permanence et surtout pour nos enfants.
Cette attaque a donc suscité de très nombreuses réactions de par le monde. Elle a aussi eu un écho en Nouvelle-Calédonie, une attaque meurtrière qui a particulièrement touché, Nicolas Legrand, la communauté juive du territoire.
Oui, l'onde de choc s'est évidemment propagée jusqu'à Nouméa après cette attaque où la communauté juive d'Australie a été ciblée. Alexandra Béra est la secrétaire de l'association culturelle israélite de Nouvelle-Calédonie.
Ça nous a beaucoup attristés. On a été vraiment très touchés, d'autant plus que nous, ici à Nouméa, on faisait aussi une fête pour célébrer la première bougie de Hanouka. Et on était tous réunis à la synagogue et on a su à la fin de notre événement ce qui s'était passé. Donc ça nous a vraiment tous secoués. Effectivement, c'est des voisins, c'est des communautés qu'on connaît. Ça nous a énormément perturbés. On a eu peur déjà de savoir s'il y avait peut-être des gens de notre communauté qui y étaient ou même des Calédoniens qui pouvaient être dans le coin parce que Bondi, comme tout le monde le sait, c'est une plage où tout le monde aime aller. À première vue, les membres de la communauté n'étaient pas sur Kiné à ce moment-là. La plupart étaient en Calédonie. Pour nous, c'était vraiment comme la Nouvelle-Calédonie, un petit coin de paradis pour notre communauté. Et on s'aperçoit que c'est plus le cas. L'an dernier, il y a un restaurant juif à Sydney qui a été visé, d'autres à Melbourne. C'est plus le cas et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est beaucoup d'incertitudes pour notre communauté.
Et la communauté juive du territoire pourrait se retrouver en petit comité dans la semaine à la synagogue pour rendre hommage aux victimes.
Et puis dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exprimé sa profonde émotion et sa solidarité à la suite de cette attaque de Bondi Beach.
Oui, il adresse ses pensées les plus sincères aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble du peuple australien durement éprouvé par cet acte de violence. Le gouvernement qui rappelle ensuite les liens historiques, géographiques et les relations humaines, économiques et institutionnelles qu'entretiennent la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, deux territoires qui partagent des valeurs de paix, de liberté, de démocratie et de respect de la vie humaine. Je cite encore, l'attaque de Bondi Beach constitue une atteinte grave à ces valeurs fondamentales. Le gouvernement qui condamne donc avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et violence aveugle. La Nouvelle-Calédonie réaffirme son soutien indéfectible à l'Australie et sa détermination à œuvrer aux côtés des partenaires régionaux pour la paix dans le Pacifique. Et enfin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie appelle les Calédoniens résidant en Australie à la plus grande prudence et à suivre strictement les consignes des autorités locales.
À Radio Rythme Bleu, 11h40.
Et avant de marquer une première pause dans ce journal pour parler de l'actualité politique en Calédonie, un mot de l'actualité en métropole où la mobilisation des agriculteurs se poursuit dans le sud-ouest. Ils manifestent toujours contre la politique d'abattage des troupeaux si un cas de dermatose nodulaire est avéré. Les manifestants bloquent toujours l'autoroute A64 au sud de Toulouse. La ministre de l'Agriculture doit se rendre sur place la nuit prochaine pour nous. Il est temps de tourner une première page de publicité dans ce journal. On se retrouve donc après la pause pour évoquer l'actualité politique en Nouvelle-Calédonie. Et sous le nom le journal Le Monde, le gouvernement abandonne le projet de consultation anticipée. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Global Parts à Ducos fête son premier anniversaire. Le spécialiste de la pièce automobile de qualité à petit prix fête ses 1 an et vous fait des offres encore plus folles. Pendant tout le mois, 30% de remise sur l'ensemble du magasin. Pièces, pneus et accessoires. En plus, rendez-vous dans notre magasin de Ducos et tentez de gagner un barbecue à gaz ou l'un des autres cadeaux en jeu. Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Règlement complet sur place. Global Parts, le spécialiste de la pièce auto pour les pros et les particuliers. 30 rue Hervoué à Ducos. Plus d'infos sur notre Facebook Global Parts NC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
À la Cacquerie calédonienne, Noël rime avec belles affaires. Dremel, Karcher, coffret d'outillage, sélection Inco, 20 volts, nos promos de Noël vous attendent. Des idées cadeaux pour un travail précis, durable et inspirant. Cacquerie calédonienne, 13 rue Ampère à Ducos ou sur Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité politique, et c'est donc un nouveau coup dur pour l'accord de Bougival. Selon le journal Le Monde, le gouvernement abandonne le projet de consultation anticipée. Le prochain Conseil des ministres du 17 décembre n'adoptera pas, comme prévu initialement, le projet de loi sur la consultation citoyenne anticipée, Elisabeth Noir.
C'est une information, vous le disiez, du journal Le Monde qui est tombée ce matin pour nous et qui a provoqué une certaine surprise. Non pas tant pour l'abandon de la consultation anticipée que par la façon dont l'information a été rendue publique. Selon le quotidien, le prochain Conseil des ministres du 17 décembre n'adopterait pas comme prévu le projet de loi sur une consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Selon les informations du Monde, et je cite, l'exécutif renonce pour l'heure à cette initiative contestée. Cette information, qui n'est pas encore confirmée officiellement, intervient une semaine après l'avis favorable donné par le Congrès à l'organisation de cette consultation des Calédoniens. Un avis favorable dans un Congrès très divisé, puisqu'il y avait eu, rappelons-le, 19 voix pour, 14 voix contre et 19 abstentions. Mais surtout, cette consultation peine à trouver un soutien au niveau national. Après que le Parti socialiste ait demandé au gouvernement d'y renoncer, il y avait un fort risque qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement pour adopter le projet de loi organisant la consultation. À ce stade, il y a peu de réactions en Nouvelle-Calédonie. La plupart des groupes politiques disent attendre la confirmation de Paris avant de réagir officiellement à cet éventuel abandon de la consultation. Pour le groupe Rassemblement au Congrès, Virginie Ruffnac a accepté de commenter cette information.
Nous sommes assez étonnés que nous apprenions par la voix du Monde cette information. En tout cas, notre groupe, et semble-t-il d'autres également, n'ont absolument pas été informés de cette prise de décision, à la fois de l'annulation donc, de cette consultation anticipée des Calédoniens sur Bougival, dont je rappelle, nous considérions que c'était une voie intéressante parce que ça permettait que les Calédoniens soient les derniers juges de paix, faute de consensus de toutes les forces politiques, et par conséquent, ça redonnait un peu la parole à la population calédonienne dans cette période. Nous voyons que, faute de majorité à Paris, puisque les socialistes, effectivement, avaient tout de suite, dès l'annonce par Madame Moutchou en Nouvelle-Calédonie, de cette proposition, indiqué qu'ils ne voteraient pas pour cette consultation anticipée. Donc, faute de majorité, le gouvernement recule. Ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage d'anticipation à Paris avec les différents groupes parlementaires. Une anticipation du gouvernement national pour finalement convaincre, avant de faire cette proposition, qu'elle avait de la pertinence, car nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation d'impasse.
Pas de confirmation à l'heure actuelle, alors que la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, est en déplacement à Mayotte. On en saura peut-être plus dans la soirée, hors de Nouméa. Le journal Le Monde indique aussi qu'Emmanuel Macron devrait de nouveau réunir les groupes politiques calédoniens à Paris à la mi-janvier. Une rencontre qui pourrait se tenir en format conclave, comme ce fut le cas à Bougival. L'information sur cette initiative du président de la République circulait déjà depuis plusieurs jours. Cette rencontre aurait été fixée au 16 janvier. Mais là encore, il n'y a pas de confirmation officielle.
Je ne vous le confirme pas non plus. Nous n'avons aucune information officielle à ce sujet, ni de la part du président de la République, ni de la part du gouvernement national. Nous avons évidemment, par nos réseaux parisiens, des bruits de couloir de certains de nos amis politiques qui nous indiquent cette intention, mais sans aucune confirmation officielle. En tous les cas, nous considérons qu'il le faut. Il faut absolument réunir l'ensemble des forces politiques calédoniennes, car nous avons travaillé depuis des mois et des années sur la possibilité d'un accord qui désormais est à portée de main et véritablement, c'est de notre responsabilité que d'offrir aux Calédoniens un accord qui donne de la sérénité à leur avenir. Le Rassemblement a toujours été engagé dans une solution partagée, qui ne peut être qu'au sein de la République française, puisque les Calédoniens par trois fois se sont exprimés. Mais il y a une nécessité de travailler un accord d'avenir pour les Calédoniens. C'est la seule voie de paix et de concorde pour la Nouvelle-Calédonie.
Emmanuel Macron devrait donc réunir les groupes politiques à la mi-janvier, mais là encore on attend confirmation. Alors qu'une délégation du nouveau FLNKS s'est envolée, vous le savez, hier soir pour Paris, où elle doit rencontrer les groupes parlementaires et peut-être le président de la République pour appeler à l'abandon de l'accord de Bougival. Si l'information de l'abandon de la consultation se confirme, on se retrouve donc de nouveau dans l'impasse, sauf si le président de la République réussissait à relancer le dossier de l'avenir institutionnel.
Et l'actualité politique, comme chaque lundi, c'est aussi Elisabeth, votre chronique de la semaine écoulée, que l'on retrouve tout de suite.
Cela fait tout juste 4 ans, c'était le 12 décembre 2021, que la Nouvelle-Calédonie choisissait de rester dans la France, au terme des 3 non à l'indépendance, exprimés lors des 3 consultations de sortie de l'accord de Nouméa. Un incroyable périple qui avait posé dès l'origine qu'il suffisait d'un seul oui pour que la Calédonie accède à la pleine souveraineté, mais qu'il fallait 3 non pour qu'elle reste française. Les Calédoniens ont donc dit 3 fois non. Et au soir de cette 3e consultation, le président de la République avait déclaré solennellement « La Nouvelle-Calédonie restera donc française ». Vous vous en souvenez sans doute, 4 ans, ce n'est pas si éloigné. Mais il faudrait aussi le lui rappeler à lui, alors qu'une délégation du nouveau FLNKS s'est envolée pour Paris, où elle souhaite rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer sa vision des choses. 4 ans, ce n'est pas si éloigné, et pourtant... Que c'est long quand on ne fait que tourner en rond, au lieu d'examiner la situation ainsi créée, selon la formule un peu nébuleuse de l'accord de Nouméa. Alors certes, nous ne sommes pas restés inertes pendant ces 4 années. Il s'est même passé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu de nombreuses tentatives menées avec plus ou moins de bonheur par les 9 ministres des Outre-mer successifs qui, en 4 ans, se sont penchés à notre chevet, même si certains n'ont fait que de la figuration. Mais rien de déterminant, rien qui indique à coup sûr une sortie de l'impasse, rien qui ouvre véritablement des perspectives d'avenir. Depuis 4 ans, seul l'accord de Bougival laisse entrevoir un petit espoir, mais son processus hoquette. Et ses adversaires sont de plus en plus nombreux, y compris parmi ceux qui l'ont signé. La position du nouveau FLNKS a le mérite de la clarté. Il a retiré sa signature. Mais combien de ses signataires ne le soutiennent plus que du bout des lèvres ? À ce titre, la prestation des sénateurs calédoniens a surpris, puisque même celui qui était censé soutenir Bougival a dit tout le mal qu'il en pensait. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans, et la moindre n'est pas l'épisode de violence insurrectionnelle qui a quasiment détruit la Nouvelle-Calédonie il y a seulement 1 an et demi. Le tribunal administratif vient de jeter un pavé dans la mare en reconnaissant la responsabilité de l'État dans la gestion calamiteuse de cette folie destructrice. Il lui est reproché de ne pas avoir positionné suffisamment de forces de l'ordre alors que la demande avait été formulée très clairement et très tôt par le haut-commissaire. L'État responsable, mais pas coupable. Il ne faut pas non plus que ce jugement exonère de sa culpabilité la CCAT et ceux qui se sont livrés à son instigation, à ses destructions, ses incendies, ses pillages, qui ont littéralement ruiné la Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, certains en profitent pour se déchaîner contre l'État, comme Philippe Gomès, qui l'accuse de tous les maux et prend pour cible l'actuel ministre de la Justice. Il faut dire qu'en prenant acte de son inéligibilité, il rappelle qu'il aura siégé 13 696 jours au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, plus de 37 ans quand même, pour un bilan qu'il vaut mieux ne pas dresser, tant il s'est le plus souvent attaché à jouer contre son camp. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Il indique que le fait de ne plus être élu n'enlèvera rien à son action. Nous voilà prévenus. Christian Théin, de son côté, est reparti vers la métropole, qui doit finalement avoir quelques attraits. Lui qui se plaignait d'être déporté loin de sa terre natale pendant un an et demi, il n'aura passé que 10 jours en Nouvelle-Calédonie. Comme quoi, tout cela nous prouve que la notion de temps est vraiment très relative.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noira, retrouvée sur notre site internet, à réécouter également, c'est juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Faut-il, selon vous, que le président de la République reçoive la délégation du nouveau FLNKS conduite par Christian Théin ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La direction Poindimier pour poursuivre ce journal où, face à la montée de la délinquance, une mobilisation citoyenne s'organise. Ce week-end, un collectif d'habitants s'est formé. Il a manifesté ce matin devant la mairie et devant la subdivision de Poindimier. Les participants souhaitent exprimer leur mécontentement et ils réclament aussi plusieurs mesures à l'État et à la mairie. Les explications de Patrick Wanatabé, membre du collectif.
L'objectif de cette manifestation se porte essentiellement sur l'incivilité, les agressions, l'alcool sur les voies publiques. On constate que l'incivilité a augmenté d'un cran là, en l'espace de quelques temps sur... l'ensemble du territoire de la commune de Poindimier. Donc on a commencé par un rendez-vous auprès de l'antenne de la subdivision de Poindimier, où on a pu rencontrer le responsable pour lui présenter nos doléances. Donc on lui demande de nous mettre plus de moyens de gendarmerie sur le terrain, hein, puis d'intervenir peut-être aussi plus rapidement, puis de mettre d'autres moyens plus efficaces et rapides lorsqu'il y a une demande d'intervention. Quand la mairie, on leur demande de remettre de l'éclairage et de s'occuper de l'entretien des abords de la commune, ainsi que les logements qui leur appartiennent, qui sont mis de côté, qui sont abandonnés depuis déjà des années, quoi.
La manifestation a pris fin à 10h ce matin. Les demandes ont bien été prises en compte par la mairie et la subdivision. Le collectif annonce qu'il se réunira vendredi à 9h à la mairie de Poindimier avec la gendarmerie et l'État, ainsi qu'avec les coutumiers pour faire le point sur la situation. Il est 11h53, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie. Nous reviendrons sur le travail des assurances à la suite des émeutes de mai 2024.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Marlène Alma, Païta et Port Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Envie de voyager pour profiter de vacances bien méritées ? Du 8 au 31 décembre 2025, tentez de gagner 2 billets d'avion aller-retour pour Paris ou l'un des 10 lots de 50 000 points Air Calin mis en jeu. Chaque achat de 50 000 francs minimum réalisé avec votre carte Air Calin Amex à l'agence Air Calin ou sur www.aircalin.nc représente une chance de gagner.
Concrétisez vite votre envie de voyage et laissez la chance embarquer avec vous.
Je soumis à conditions. Plus d'informations sur www.ofina.nc. Du 13 au 24 décembre, vivez la magie de Noël au centre commercial Hyper U Païta. Ateliers créatifs, Lego, maquillage, sculpture de ballon, spectacle de magie. Et surtout, le Père Noël sera là pour un moment inoubliable en famille. Les enfants peuvent aussi glisser leurs plus belles lettres dans la boîte aux lettres magique. À la clé, 10 cartes cadeaux de 10 000 francs à gagner chez Kim Jouet. Et en bonus, la fête foraine vous attend du 16 décembre au 4 janvier pour prolonger la magie. Retrouvez le programme complet et nos horaires exceptionnels sur notre page Facebook Centre commercial Hyper U Païta.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
La condamnation de l'État en première instance par le tribunal administratif suscite de nombreuses réactions. 14 recours avaient été déposés par la société Allianz visant à faire condamner l'État pour sa responsabilité dans l'incendie de 14 commerces de Kenwin au début des émeutes, entre le 15 et le 17 mai. Une procédure qui n'a rien d'exceptionnel, nous a dit ce matin Jean-Michel Calba, le président du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie, qui était notre invité à 7h30.
Non, c'est pas exceptionnel. On avait déjà eu ce genre de recours contre l'État à l'occasion des émeutes de Naël en métropole. Alors nous, on a bien pris connaissance de cette décision rendue par le tribunal administratif, mais pour le coup, ça, c'est plutôt exceptionnel, puisque le tribunal administratif, effectivement, a condamné l'État. C'est une décision importante parce qu'elle ouvre aussi la voie à des victimes qui n'étaient pas assurées d'exercer des recours. Donc c'est possible, puisque ce jugement permet de condamner l'État. Alors pour les compagnies d'assurance, Allianz a débuté, mais les autres compagnies étaient déjà préparées ou sont en cours de constitution, chacun de leur côté, de dossiers qui vont suivre. Donc c'est juste une question de timing, mais les compagnies n'attendaient pas qu'une première ait gagné pour enchaîner.
Rappelons que l'État, condamné donc en première instance, dispose de plusieurs semaines pour faire appel de la décision du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Et si c'est le cas, l'affaire sera rejugée d'ici 3 ou 4 ans par la Cour d'appel administrative de Paris. Mais d'ici là, la donne financière aura peut-être changé car la France travaille toujours à la mise en place d'un fonds émeute, un fonds d'indemnisation nationale. Le dossier est en cours, nous a expliqué Jean-Michel Calba.
Au cours du premier semestre de cette année, la Direction générale du Trésor et France Assureur ont travaillé sur un mécanisme de partage du risque entre l'État, les assureurs et les réassureurs privés. Mais il y avait plusieurs points de crispation, notamment le coût du dispositif pour les assurés. On n'avait pas eu de nouvelles donc de ces travaux-là jusqu'alors. Et puis, après l'adoption de la partie recette du budget par l'Assemblée nationale, la Haute Assemblée examine aujourd'hui la seconde partie du texte qui inclut les crédits et les mesures législatives rattachées. C'est dans ce cadre, en fait, qu'un amendement gouvernemental a été déposé au Sénat le 8 décembre, donc c'est très récent, dans le cadre du projet de la loi de finances. Donc cet amendement, justement, réintroduit un mécanisme structurel de couverture des émeutes destiné à restaurer l'assurabilité d'un risque devenu difficile à porter, du risque émeute, difficile à porter pour les assureurs en France métropolitaine comme dans les territoires ultramarins.
Et concernant les émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, le coût estimé des indemnisations par les assurances est de 103 milliards de francs. 95% de cette somme concerne les entreprises et 80% de la charge sinistre a déjà été réglée, nous a dit Jean-Michel Calba. La profession se retrouve maintenant aussi sous pression en Calédonie car le paysage assurantiel a bougé.
Quand on fait du commerce dans un marché normal, quand il y a un concurrent qui s'en va, on se frotte les mains. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que nous faisons face à des engagements qui sont trop importants. Et quand on a des désengagements, effectivement, de compagnies d'assurance qui disent « certaines sont parties », d'autres disent « nous, on ne va plus faire de professionnels, donc le marché est ouvert pour ceux qui restent », sauf que ceux qui restent ne sont pas nombreux. Et donc, on se retrouve confronté à ce qu'on appelle en assurance des zones de conflagration, c'est des zones d'accumulation de risques qui sont difficilement supportables pour les quelques-uns qui restent. Donc, c'est compliqué parce que si on touche nos plafonds d'accumulation de risques, ça veut dire qu'il faut qu'on rachète de la capacité de réassurance. Et donc, sur les tranches supérieures, ça coûte extrêmement cher. Et donc, des fois, quand on est en dépassement, la compagnie va payer une somme de réassurance beaucoup plus importante qu'elle va devoir forcément répercuter dans ses tarifs.
Le président du COSODA, Jean-Michel Calba, qui était notre invité ce matin à 7h30, interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Les agriculteurs du Mont d'Or se mobilisent pour protéger leurs exploitations. Ils ont créé l'association AgriSentinelle Mont d'Or en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, Léana Colombo.
Depuis l'année dernière, les faits de vols et infractions se multiplient sur les propriétés, notamment à la coulée. Aujourd'hui, les agriculteurs souhaitent s'entraider et ont créé pour cela l'association AgriSentinelle Mont d'Or. Elle regroupe pour l'instant, une dizaine d'exploitants qui travaillent avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des terrains et des professionnels. Stella Levanao est secrétaire de l'association.
Pourquoi on s'est mis en place ? C'est pour aussi avoir une légitimité. On a aussi un référent sécurité, la gendarmerie, qui vient nous conseiller sur comment protéger une exploitation agricole. C'est compliqué aussi de pouvoir tout sécuriser. Et puis, c'est un coût. Et l'association est là aussi pour regrouper les demandes, pouvoir faire des commandes à des fournisseurs en grande quantité, pour pouvoir négocier des tarifs à moindre coût. Donc l'idée, c'est ça. Et bien sûr, de référencer tous ces professionnels qui n'osent pas parler, parfois. Ça fait partie du rôle de l'association de sensibiliser, d'aider et de leur expliquer pourquoi c'est important de porter plainte auprès de la gendarmerie.
Sur l'initiative de la gendarmerie mobile, le dispositif Soleil Vert a également été mis en place le 30 octobre dernier. Un dispositif de surveillance qui fait ses preuves, nous a dit Stella Levanao.
Ce dispositif permet aux gendarmes de mieux organiser le dispositif de sécurisation des exploitations agricoles. C'est vraiment un travail de proximité, hein. Ils se déplacent sur les exploitations, ils font connaissance avec les professionnels, ils tracent une cartographie, ils sont capables, à partir de ça, de savoir où ils doivent placer leurs équipes et comment agir. Et ça permet vraiment de rassurer les exploitants agricoles. Nous, depuis l'intervention, aujourd'hui, on n'a plus de vol. Et c'est tellement agréable de pouvoir aller au travail et de pouvoir vraiment s'occuper de nos plantations.
L'association Agri-Sentinelle du Mont d'Or invite tous les exploitants agricoles à rejoindre leur initiative. Elle bénéficie du soutien de la Chambre d'agriculture et de la pêche, de la mairie du Mont d'Or, mais aussi de la province sud.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
C'est la dernière ligne droite. Le Noël, c'est dans 10 jours et nous arrêtons notre collecte dans le cadre de notre opération au cœur de Noël à la fin de la semaine. Mais d'ici là, on vous attend encore nombreux à la radio pour porter des cadeaux qui seront distribués aux enfants des familles en difficulté à l'occasion de Noël par nos partenaires. Alors n'hésitez pas, passez à la radio, déposez un petit cadeau. Vous ferez forcément des heureux pour cette fête de Noël qui approche. On compte sur vous. Vous pouvez passer tous les jours, vous le savez, de 7h à 19h, week-end compris. Midi et une minute, la fin de ce journal.